en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Très bien, merci beaucoup, messieurs les présidents, mesdames, messieurs. Je suis très honoré d'avoir cette invitation et de parler devant vous. Je vous prie de m'excuser à l'avance, j'ai un peu une extinction de voix. Et j'espère que ça va ne pas vous poser de problème. Donc le sujet d'aujourd'hui est un sujet qui évidemment tient à cœur tous les économistes, la moralité et le marché, est basé sur le fait que les croyances des citoyens en les mérites de la libre entreprise et de l'économie de marché varie beaucoup dans le monde. 61% des habitants de notre planète pensaient en 2005 que l'économie de marché est le meilleur système sur lequel fonder leur avenir. Mais si 65% des Allemands, 71% des Américains et 74% des Chinois formulaient cette opinion, seulement 43% des Russes, 42% des Argentins et 36% des Français faisaient confiance au marché. Des croyances qui, à leur tour, bien sûr, affectent les choix politiques, les choix économiques des pays concernés. Le marché a de bonnes propriétés allocatives et protège le citoyen du discrétionnaire, des lobbies et du favoritisme si présents dans les mécanismes plus centralisés d'allocation des ressources. Pour ces raisons, il joue un rôle central dans la vie économique. Mais bénéficier des vertus du marché requiert souvent de s'écarter du laisser-faire. De fait, les économistes ont consacré une grande partie de leurs recherches à l'identification des défaillances de marché et à leur correction par la politique publique. Droit de la concurrence, régulation par les autorités sectorielles et prudentielles, taxation des externalités environnementales et des congestions, politique monétaire et stabilisation financière, mécanismes de fourniture des biens tutélaires comme l'éducation et la santé, redistribution, etc. Sujet à ces bémols, la très grande majorité des économistes sont favorables au marché. Les spécialistes des autres sciences sociales, philosophes, psychologues, sociologues, juristes et politistes, une grande partie de la société civile et la plupart des religions ont une vision différente du marché. Tout en reconnaissant ses vertus, ils reprochent souvent aux économistes de ne pas suffisamment tenir compte des problèmes d'éthique et de la nécessité d'établir une frontière claire entre les domaines marchands et non marchands. Un symptôme de cette perception est le succès planétaire du livre « Ce que l'argent ne saurait acheter, les limites morales du marché » de Michael Sandel, professeur de philosophie à Harvard. Pour ne citer que certains de ces exemples, Michael Sandel fait valoir que toute une gamme de biens et services, comme l'adoption d'enfants, la GPA, la sexualité, la drogue, le service militaire, le droit de vote, la pollution ou la transplantation d'organes ne doivent pas être banalisés par le marché, pas plus que l'amitié, l'admission aux grandes universités et le prix Nobel ne doivent être achetés, ou les gènes, ou plus généralement le vivant, ne doivent être brevetés. Il y a beaucoup de philosophes, en particulier anglo-saxons, qui ont travaillé récemment sur les limites du marché, les limites éthiques du marché. Mon exposé analysera les réticences vis-à-vis du marché et la distinction entre domaine marchand et domaine du sacré, la place de l'émotion et de l'indignation dans nos choix de société et le marché comme menace pour le lien social. Enfin, il conclura peut-être, parce que je n'aurai sans doute pas le temps, par quelques réflexions sur le lien entre marché et inégalité. Je voudrais commencer par les limites morales du marché et pour nous concentrer sur les vraies questions, écartons certains de ces exemples de Michael Sandel qui reflètent simplement un manque de connaissance des travaux des économistes. Des travaux anciens, par exemple, comme ceux sur l'économie de l'information et des externalités, ou des travaux pluridisciplinaires entrepris depuis 10 ou 20 ans, en Europe comme aux États-Unis. Ces derniers travaux, théoriques et expérimentaux, sur le terrain, en laboratoire, en neuroéconomie, couvrent des sujets aussi divers que la morale et l'éthique, les normes sociales, l'identité, la confiance ou les phénomènes d'éviction créés par les incitations. Commençons par la théorie de l'information. Par exemple, l'idée qu'on puisse acheter une vraie amitié, une admission à une université ou un prix Nobel, contrevient aux théories élémentaires sur les asymétries d'information. Ces biens perdraient toute valeur s'ils pouvaient être achetés. Car on ne pourrait plus savoir si l'amitié est réelle, l'admission à l'université est signe de talent ou le prix Nobel est mérité. Par exemple, le diplôme de l'université sera un signal de richesse et non d'aptitude et ne servira à rien à convaincre un employeur. Deuxième volet, externalité et internalité. Un marché pour l'adoption d'enfants où les vendeurs, les parents biologiques, les agences d'adoption et les acheteurs, les parents adoptifs, s'échangeraient contre espèces sonnantes et trébuchantes des enfants, n'inclurait évidemment pas une tierce partie, pourtant très concernée, les enfants eux-mêmes, qui subiraient des externalités importantes dans cet échange. Un autre exemple d'externalité créée par un marché est fourni par les diamants qui servent à alimenter une guerre civile. Autoriser le commerce des diamants par des fractions armées exerce un fort pouvoir de nuisance sur des populations civiles affectées par la guerre. Quant à la pollution, l'expérience montre que les recommandations des économistes, qui est quasi unanimement un prix unique du polluant, a nettement diminué le coût des politiques écologiques et par là a contribué à améliorer notre environnement. Certains trouvent encore immoral l'idée que qu'une entreprise puisse acquérir le droit de polluer en payant. Mais l'argument sous-jacent est très faible. Aujourd'hui, les entreprises émettrices de carbone, par exemple, ne paient qu'une somme dérisoire par rapport aux enjeux. Est-ce vraiment plus moral? In fine, il faut réduire la pollution, et comme on ne peut malheureusement pas l'éliminer totalement, il faut bien s'assurer que ceux qui peuvent le faire à bas coût le fassent effectivement. Et c'est exactement ce qu'assure un prix du carbone. La question de la drogue pose, au-delà des problèmes de violence ou de santé publique liés aux drogues dures, la question de l'insuffisance d'autodiscipline et de l'addiction dont les individus concernés sont les principales victimes. La question de la drogue n'est donc pas une question de moralité, mais de protection des citoyens contre les autres, c'est le cas de l'externalité, et surtout contre eux-mêmes, une internalité. Un pays où les droits de vote s'échangeraient à un prix de marché ne mènerait pas à des politiques auxquelles nous souscririons derrière le voile de l'ignorance, c'est-à-dire sans savoir quelle serait notre place dans la société. Les ménages les plus aisés pour acheter les droits de vote et faire passer des lois qui leur seraient favorables. Cet argument est d'ailleurs utilisé pour limiter les contributions individuelles aux campagnes électorales ou alors pour en financer une partie avec de l'argent public. Un achat direct de vote serait plus nuisible, nettement plus nuisible qu'une contribution à une campagne électorale qui n'achète des votes que de façon très indirecte en facilitant la visibilité du candidat. Nous sommes donc dans le domaine des défaillances de marché que les économistes ont toujours mis au premier plan. Je voudrais dire un petit mot sur les effets contre-productifs des incitations. L'économie en général, et c'est vrai, insiste sur la nécessité de faire en sorte que les objectifs individuels soient alignés sur les objectifs collectifs. Il s'agit de mettre les individus en phase avec la société, en particulier par des incitations qui découragent les comportements, comme la pollution, qui sont nuisibles à la société, et à l'inverse, encouragent des comportements vertueux. Les autres sciences sociales sont en désaccord partiel avec ce principe. Selon elles, les motivations extrinsèques, les incitations, peuvent évincer la motivation intrinsèque, de sorte que les incitations peuvent être contre-productives. Je cite ici Michael Sandel. Si vous donnez à un enfant, $1 pour lire un livre, ce que certaines écoles ont essayé de faire, non seulement vous créez une attente que la lecture fait gagner de l'argent, vous courez aussi le risque de priver l'enfant à jamais de ses bénéfices. Les marchés ne sont pas innocents. Sandel reprend ainsi une critique ancienne des psychologues vis-à-vis du postulat économique, selon lequel une augmentation du prix accroît l'offre. Même si ce postulat a été vérifié empiriquement dans de très nombreux domaines de la vie économique, il y a aussi des exceptions. Payer un enfant pour lire un livre ou réussir un examen peut avoir un effet bénéfique à court terme, mais par la suite diminuer son envie d'apprendre une fois la récompense supprimée. Dans un autre domaine, payer les gens pour donner leur sang n'augmentera pas forcément le niveau de la collecte. Tandis que certains réagiront positivement à la citation ainsi fournie, d'autres y perdront leur motivation, car il n'est plus clair s'ils donnent leur sang par souci du bien public ou par appât du gain. Notre volonté de paraître, c'est-à-dire de donner une bonne image de nous-mêmes, soit vis-à-vis de soi-même, soit vis-à-vis des autres, peut donner naissance à des effets contre-productifs des incitations, ceci d'autant plus que le comportement est public, surtout devant des personnes dont on recherche l'estime, et qu'il est mémorable. En cas de paiement pour un acte par ailleurs pro-social, par exemple le don du sang, nous avons peur que notre contribution ne soit interprétée comme un signe de cupidité plutôt que de générosité, et que le signal que nous envoyons aux autres soit ainsi dilué. Contrairement à un principe de base de l'économie, une récompense monétaire peut réduire l'offre du comportement social concerné. Plusieurs études empiriques réalisées ont depuis confirmé cette théorie. Donc, les effets contre-productifs, qui s'appliquent à certains domaines de la vie très spécifiques, ont été étudiés depuis 10 ou 15 ans par les économistes. J'en viens à mon deuxième sujet, le domaine du marchand, du non-marchand et du sacré. Même en mettant de côté ces exemples qui relèvent de l'économie classique, nous avons tous des réticences d'ordre éthique ou moral à l'existence de certains marchés ou certaines formes d'incitation. Nous pouvons citer le don d'organes, les mères porteuses, la prostitution ou les paiements pour échapper à la conscription. Pourquoi en est-il ainsi ? Une analyse de pourquoi de tels tabous, qu'ils soient justifiés ou non, me semble plus fructueuse que la conception de politique publique, pour la conception de politique publique, pardon, qu'une simple indignation. Je voudrais illustrer ce propos à l'aide d'un débat suscitant beaucoup de passion de part et d'autre, le don d'organes. Gary Baker, professeur à l'Université de Chicago et célèbre partisan de l'étude des comportements sociaux, famille, drogue, etc., à travers le prisme de l'économie, remarquait que l'interdiction de vendre son rein, par exemple, limitait les donations, essentiellement réservées aujourd'hui à la famille et aux très proches, condamnant chaque année des milliers de personnes, rien qu'aux États-Unis, à mourir faute de donneurs. Gary Baker en concluait que les détracteurs des marchés d'organes ne devaient donc pas se targuer de moralité, puisqu'ils faisaient mourir des milliers de personnes tous les ans. Malgré le bien fondé de cet argument, nous éprouvons tous une gêne vis-à-vis des marchés de dons d'organes. Mais au vu des enjeux considérables, il conviendrait de comprendre pourquoi. Est-ce parce que nous craignons que les donneurs ne soient pas suffisamment informés des conséquences de leur acte ? Dans ce cas, il existe un remède simple. Il suffit de demander aux donneurs d'écouter une information impartiale et d'y réfléchir. Ou bien est-ce parce que la vente d'organes, en dévoilant que des individus sont prêts à vendre leurs reins pour quelques centaines d'euros, nous révélerait des inégalités que nous voudrions bien oublier ? Ou encore parce que l'on veut protéger les gens contre leur préférence trop forte pour le présent, la préférence pour une somme disponible immédiatement contre des conséquences néfastes à long terme. Je vous rappelle que la puissance publique intervient souvent avec un côté paternalisme contre la préférence pour le présent des individus. On les force à épargner plus pour leur retraite, on taxe l'alcool ou la drogue, on les force à aller à l'école, etc. Il y a un certain nombre de choses sur lesquelles nous avons une politique paternaliste, justement, contre la préférence trop forte pour les présents des individus. Je n'ai pas de réponse à la question du don d'organes, mais je dis simplement, Gary Baker indiquait quelque chose là. Il disait, attention, on ne peut pas se targuer de moralité quand on est contre les dons d'organes. Ça ne veut pas dire qu'il faut se targuer, on est très moral quand on recommande les ventes d'organes. Mais il faut bien réfléchir à ces questions, et ça va être un leitmotiv de mon exposé. Je vous rappelle que Kant appelait à une séparation claire entre ce qui a un prix et ce qui a une dignité. Je cite Kant ici. Dans le règne des fins, tout a un prix ou une dignité. Ce qui a un prix peut aussi bien être remplacé par quelque chose d'autre à titre d'équivalent. Au contraire, ce qui est supérieur à tout prix Ce qui par suite n'admet pas d'équivalent, c'est ce qui a une dignité. Bon, certains d'entre vous, certains d'enfants d'entre vous ont eu ça comme sujet du bac d'ailleurs. Notre attitude vis-à-vis du marché relève peut-être aussi de notre refus de comparer l'argent à d'autres objectifs. Par exemple, l'introduction de considérations financières heurte particulièrement nos vues sur le caractère sacré de la vie humaine. Nous savons tous que la vie n'a pas de prix. Les tabous sur la vie et la mort, faisant partie de l'incommensurable chair à Émile Durkheim, ont des conséquences. L'explicitation des arbitrages liés à la santé, l'allocation des budgets hospitaliers ou de choix de sécurité soulève des controverses importantes. Son absence implique un accroissement des décès dû à notre refus de comparer les effets thérapeutiques et le nombre de vies sauvées dans les choix hospitaliers ou l'allocation des budgets de recherche médicale. N'est-il pas absurde de dépenser dans un service chirurgical ou une opération de sauvetage des millions d'euros pour sauver une vie, quand avec la même somme, on pourrait en sauver des dizaines dans d'autres services? Mais le cynisme apparent d'une telle considération choque la société qui le rejette. Les philosophes ont depuis longtemps réfléchi à notre réticence vis-à-vis des considérations utilitaristes de ce type. Le plus célèbre des dilemmes posés par les philosophes est celui du tramway, dans lequel on nous demande si nous serions prêts à pousser un homme sous un tramway pour le faire dérailler, sauvant ainsi de la mort 5 personnes qui autrement se trouveraient sur son passage. La plupart des personnes interrogées ne sont pas prêtes à pousser quelqu'un sous un tramway pour sauver 5 personnes. On demande à un chirurgien s'il serait prêt à tuer un homme bien portant pour sauver 5 personnes sur le point de mourir s'ils ne reçoivent pas un don d'organes immédiat. Au corps, on présente un choix aux gens de sauver de la noyade son enfant ou sauver 5 enfants, les deux n'étant pas physiquement compatibles. Pour prendre un cas moins extrême, 2 chercheuses américaines de Yale ont montré que le marché américain du funéraire, qui a priori devait être extrêmement compétitif, concurrentiel, exhibe des marges quasi monopolistiques en raison de notre répugnance à parler de l'argent lors d'un décès d'un proche. Il convient néanmoins de s'interroger sur l'origine de ces tabous, de se demander s'ils sont socialement justifiés et d'évaluer leur incidence pour les politiques publiques. De facto, nous mettons tous implicitement une valeur sur la vie, celle des patients lors d'arbitrages hospitaliers dans les choix d'équipement, ou celle de nos enfants dans nos choix d'automobile ou de vacances. Si on choisit une automobile plus robuste, c'est vrai qu'on met une vie, implicitement une vie plus élevée sur la vie de nos enfants, un prix plus élevé sur la vie de nos enfants. Mais jamais nous ne voudrons admettre que nous faisons ces choix. Nous sommes aussi mal à l'aise vis-à-vis de ces choix que Sophie a à choisir lequel de ses 2 enfants doit survivre sous la menace que les 2 soient gazés si elle refusait de faire un choix. Il était aussi utile de rappeler que les tabous sont changeants dans le temps et dans l'espace. Et ça, c'est très très important. Il suffit de considérer les attitudes de la société vis-à-vis de l'assurance décès et du paiement d'intérêts sur les créances, deux pratiques autrefois largement condamnées comme étant immorales. Ces répugnances, ces tabous, sont-ils provoqués par la perte de dignité qui s'ensuivrait même si l'on ne faisait que contempler de tels choix, ou par la peur que la société ne s'engage sur une pente glissante? Excusez-moi. Troisième partie de mon exposé, j'aurais parlé de l'indignation qui, en tant qu'économiste, je dois reconnaître, me semble un pauvre guide de la moralité. Nous avons l'habitude de nous indigner devant, par exemple, l'injustice ou des comportements faisant peu de cas de l'humain. Le sentiment d'indignation peut signaler des errements dans le comportement individuel ou l'organisation de notre société. Au même titre qu'un impératif moral suggère, peut-être de façon trop rigide, des comportements à adopter ou à proscrire. Pour autant, l'indignation est souvent aussi mauvaise conseillère. Elle peut conduire à l'affirmation de préférences individuelles au détriment de la liberté des autres. Et elle fait parfois l'économie d'une réflexion en profondeur. Pour avancer, il nous faudra identifier plus soigneusement les ressorts de la moralité des comportements. On pourra ainsi mieux comprendre comment différentes institutions, du marché au système plus administré, affectent nos valeurs et nos comportements. Une étude d'Armin Falk et de Nora Tschech, donc deux chercheurs en Allemagne, publiée dans Science récemment, montre que, par exemple, le partage des responsabilités érode les valeurs morales. Et ça, on le sait tous. Cette érosion s'applique au marché, mais elle existe déjà avec la même puissance dès qu'une décision implique une autre personne, autorisant un semblant de partage de responsabilités. Et tous les régimes totalitaires, qui ne sont pas des régimes de marché, ont bien compris ça. L'existence d'excuses, on m'a demandé de le faire. Quelqu'un le ferait de toute façon si je ne le faisais pas. Je ne savais pas. Tout le monde le fait. Dans toutes les organisations, permis la mise au rancard des réticences individuelles à des comportements peu éthiques. Rappelons-nous la formule célèbre de Lionel Jospin lorsqu'il était Premier ministre. Oui à l'économie de marché, non à la société de marché. Même si, comme Lionel Jospin, on peut s'inquiéter de l'extension de l'économie de marché dans le secteur dit non marchand, la définition des politiques économiques ne peut se satisfaire d'une dichotomie arbitraire entre domaine du non marchand et domaine marchand, ou pour reprendre Kant, entre ce qui relève du marché et de considérations supérieures. On ne peut pas se satisfaire dans des cantonnements dans des postures morales. Comme le note le psychologue Jonathan Haidt, professeur à New York University, la morale commune réfère non seulement à des externalités, ce dont les économistes ont l'habitude, mais aussi à des condamnations de comportements sans victime claire. Or, il y a moins d'un demi-siècle, l'opinion majoritaire condamnait les actes sexuels entre deux personnes du même sexe, ou aux États-Unis entre deux personnes de races différentes, ou encore impliquant une femme, mais pas un homme, non marié. Sur un terrain plus économique, les droits et les missions négociables inspiraient, il y a 20 ans, un découp généralisé, avant qu'il se banalise, une fois qu'il fut compris par une frange de la population qu'il promouvait la cause écologique. Nos sentiments de répulsion sont très peu fiables comme source d'inspiration éthique. Mon point de vue est qu'il est nécessaire de questionner ces sentiments et de privilégier la réflexion dans la conception des politiques publiques. Il nous faut mieux comprendre les fondements des craintes vis-à-vis de la marchandisation de certains domaines, ainsi que ceux de la moralité. Ce que la comité des chercheurs va continuer d'explorer dans les années à venir. Sujet suivant. Le marché est-il une menace pour le lien social? Une autre catégorie d'objection à l'économie de marché provient d'un malaise diffus face à la perte de lien social. Bien sûr, il y a d'autres causes de ce malaise, comme par exemple l'urbanisation et le remplacement de la communication directe par l'utilisation de l'Internet. Même si, ce dernier, par les réseaux sociaux, Skype, l'email, permet de garder un contact beaucoup plus fréquent avec la famille et les amis éloignés. Mais le lien social peut être distendu par des phénomènes liés au marché, la globalisation, la mobilité. Nous échangeons avec la Chine et non plus avec la ville d'à côté. Nous allons nous installer loin de nos parents et loin de nos racines. L'adhésion populaire à des injonctions du type « achetons français, achetons américain » reflète ce malaise plus, on l'espère, qu'un jugement de valeur quant au mérite relatif des salariés français et américains par rapport aux travailleurs chinois ou indiens. Le marché anonymise les relations, mais c'est en partie sa fonction. Il est supposé libérer les acteurs du pouvoir de marché d'autres acteurs, empêcher les entreprises puissantes d'imposer leurs prix élevés et leur qualité médiocre à des consommateurs captifs. Il peut effectivement, comme le notent ceux qui regrettent la diminution associée du lien social, faciliter l'échange éphémère, anonyme, l'antithèse de l'économie du don et du contre-don. Même si dans les économies modernes, les notions de réputation et de relations répétées jouent encore un rôle crucial dans les dimensions de l'échange qui sont difficiles à spécifier dans un contrat et à mettre en œuvre à travers le système juridique. Il n'est pas étonnant que les géants de l'Internet, d'Uber à eBay ou Booking, aient créé un système de notation et de partage des expériences entre utilisateurs. Mais cette diminution des liens a aussi des vertus. Tout d'abord, comme l'indiquait Pierre Bourdieu, l'économie du don et du contre-don crée une relation de dépendance, une relation de supériorité entre donateur et donataire, dans lequel la violence est masquée sous une apparence de générosité sans calcul. C'est une remarque qui a déjà été faite dans un exposé précédent par Jean-Pierre Hansen. Plus généralement, les liens sociaux, s'ils ont beaucoup de vertus, peuvent aussi être étouffants et contraignants. Comme l'indique par exemple l'exemple du villageois qui mangeait du mauvais pain toute sa vie car il n'osait pas froisser le boulanger du village. Ensuite, le marché permet d'étendre son cercle d'interaction. Montesquieu parlait du doux commerce. Selon lui, le marché nous apprendrait à interagir et à connaître des étrangers. L'économiste américain Sam Bowles, ancien collaborateur de Martin Luther King, post-marxiste et un des pionniers de l'élargissement de l'économie aux autres disciplines des sciences humaines et sociales, adopte une position similaire dans ses ouvrages et dans une tribune au titre évocateur « The Civilizing Effect of Market Economies », l'effet civilisateur des économies de marché. Ceux qui expriment de l'inquiétude vis-à-vis de l'impact du marché sur le lien social font souvent l'amalgame entre trois soucis différents. Premier souci, le marché renforcerait l'égoïsme des participants, les rendant moins capables de liens affectifs envers les autres. Après tout, Adam Smith n'a-t-il pas énoncé dans une formule célèbre « Ce n'est pas de la bienveillance du boucher, du brasseur ou du boulanger que nous attendons notre dîner, mais de leur souci de leur intérêt propre. » L'égoïsme semble donc au cœur de l'économie de marché, même comme s'il indique en résonance avec Adam Smith, un des plus brillants économistes contemporains, Darren Acemoglu, l'important n'est pas forcément de ce qui motive le résultat, mais le résultat lui-même. Je cite Darren Acemoglu ici. « L'un des apports profonds et importants de la science économique est de révéler qu'en soi, la cupidité n'est ni bonne ni mauvaise. Lorsqu'elle est canalisée au service d'un comportement novateur, concurrentiel, et axée sur la maximisation des profits, dans le cadre des lois et des réglementations bien conçues, la cupidité peut servir de moteur à l'innovation et à la croissance économique. Mais lorsqu'elle n'est pas soumise au contrôle des institutions et des réglementations appropriées, elle dégénère en recherche de rente, corruption et criminalité. Second souci, le marché permettra aux citoyens de s'éloigner des institutions traditionnelles, comme leur village et leur famille étendue, les distanciant ainsi de leur lien à la société qui les entoure. Troisième souci, le marché, comme nous l'avons déjà discuté, permettrait aux citoyens d'envisager certaines transactions qui autrement seraient impensables, de vendre leurs organes ou leurs services sexuels par exemple, mettant ainsi des aspects de leur intimité à une distance affective, comme s'il s'agissait de banales négociations commerciales. Dans son livre « La société des inconnus, histoire naturelle de la collectivité humaine », mon collègue Paul Seabright, directeur de l'Institut d'études avancées à Toulouse, IAST, analyse ses trois inquiétudes quant à l'influence de l'économie de marché. Il observe que loin de s'appuyer sur l'égoïsme de ses participants, le marché leur demande aussi une grande capacité de construire la confiance. Et rien n'est plus corrosif pour la confiance que l'égoïsme pur. Il montre comment, depuis la préhistoire, c'est l'aspect social de notre nature humaine qui nous a permis d'élargir le cercle de nos échanges économiques et sociaux. Certes, cela ne nous transforme pas en créatures très altruistes, mais le marché est un lieu de concurrence, de compétition et de collaboration, et l'équilibre entre les deux est toujours délicat. Il est vrai aussi qu'en nous permettant de choisir nos partenaires d'échange, le marché nous facilite la rupture avec certains liens traditionnels. Mais il s'agit d'une transformation de liens hérités en liens choisis, plutôt que d'une destruction du lien social tout court. Avec sans doute, au total, des relations peut-être moins durables, Mais ni la durabilité, ni l'héritage des liens sociaux ne sont des vertus en eux-mêmes. Qui déplorerait in fine l'inspiration des liens sociaux les plus forts qui n'aient jamais existé? Celui entre l'esclave et son maître, celui d'une femme avec son mari tout puissant, celui d'un ouvrier soumis aux conditions d'un employeur monopolistique, monopsonistique, ou pour prendre un exemple plus léger, celui de notre villageois coincé toute sa vie avec un boulanger peu doué ou fainéant. Quant à la commercialisation de certaines transactions considérées jusqu'ici comme touchant au domaine du sacré, Paul Seabright souligne combien les intuitions définissant le domaine du sacré ont changé au cours des époques et à travers les cultures. Selon lui, le refus de la commercialisation explicite peut coexister avec une commercialisation implicite. Une personne qui serait scandalisée par l'idée même de la prostitution ou de rémunération d'une compagnie peut néanmoins rester avec un époux ou une épouse qu'il ou elle n'aime plus par désir de sécurité financière ou par peur de solitude. Il n'existe pas de conclusion facile dans ce domaine, et parfois le marché n'est qu'un bouc émissaire pour notre propre hypocrisie. Sans renforcer ni affaiblir en lui-même nos liens sociaux, le marché est un miroir de notre âme, rendant ainsi explicite des aspects de nos tentations et de nos préférences que nous aurions préféré cacher non seulement aux autres, mais aussi à nous-mêmes. Nous pouvons casser le miroir en supprimant le marché, nous pouvons suspendre le questionnement de nos valeurs personnelles et collectives, mais nous ne pouvons pas l'éliminer. Enfin, je voudrais dire quelques mots sur les inégalités. Je ne suis pas un spécialiste des inégalités. Il y a de bien meilleurs spécialistes que moi dans cette salle. Mais je voudrais dire quelques mots quand même, parce qu'une discussion du lien entre marché et moralité ne serait pas complète sans au moins une brève discussion des inégalités. L'économie de marché n'a aucune raison, a priori, de générer une structure des revenus et des richesses conformes à ce que voudrait la société. C'est pour cela qu'une fiscalité distributive, redistributive, a été mise en place dans tous les pays. On pourrait penser que dans la mesure où le marché est souvent perçu comme la cause de l'accroissement des inégalités, constatée ces 30 dernières années, la méfiance vis-à-vis du marché dans certains pays serait une réaction à l'accroissement des inégalités. Cela ne semble pas être le cas. Les 1% des Français les mieux rémunérés touchaient en 2007 deux fois moins en proportion du total des revenus dans le pays que leurs homologues américains. De même, l'inégalité globale après impôt est nettement plus faible en France. Et d'ailleurs, il n'y a pas de raison pour lesquelles l'attitude vis-à-vis des marchés devrait dépendre du niveau des inégalités. Comme le montrent les pays scandinaves, un pays peut très bien adhérer pleinement à l'économie de marché et utiliser l'impôt pour atténuer les inégalités. Beaucoup de recherches en sciences économiques modernes ont porté sur la mesure et la compréhension des inégalités, et ce sujet à lui seul mériterait un exposé entier. Je voudrais ici faire simplement quelques remarques sur ce que la science économique peut et ne peut pas faire pour contribuer au débat. Les économistes, je pense, ont fait beaucoup pour mesurer les inégalités. Ils ont fait beaucoup pour comprendre les sources de ces inégalités et comment ces inégalités vont changer dans le temps ou ont déjà changé. Et aussi, très important, c'est le rôle d'un économiste de comprendre, à objectif de redistribution donnée, quelles sont les politiques efficaces. Alors, je pourrais parler pendant quelques heures là-dessus, parce que c'est vrai que souvent on redistribue de façon complètement inefficace. Et il y a beaucoup de politiques en France, je vous renvoie à ma tribune dans Libération avec Étienne Vasseur d'ailleurs, il y a beaucoup de politiques en France qui sont très inefficaces, qui sont censées redistribuer vers certaines catégories et qui ne redistribuent pas du tout vers ces catégories. Donc, il y a des marqueurs de la redistribution qui sont en fait extrêmement trompeurs sur l'existence de la redistribution et surtout qui peuvent gaspiller aussi les fonds publics. Alors, je ne vais pas avoir de temps pour parler de ça. J'aurais laissé la parole aux discussants, qui est Michel Pedro, et puis aussi laisser la parole à la salle. Je voudrais quand même dire deux, trois mots sur les limites de l'économie, sur ce sur quoi il est difficile pour un économiste de se prononcer. Dans un système fiscal cohérent, dans un bon système fiscal, encore une fois, on n'est pas dans un bon système fiscal, il y a nécessairement un compromis entre un peu plus de redistribution et un peu moins de pouvoir d'achat et de croissance. Sinon, c'est un système fiscal qui n'est pas efficace. Excusez-moi. Le choix exact face à ce compromis est complexe. D'une part, parce qu'il dépend des préférences de l'intéressé en faveur de la redistribution, un jugement de valeur personnelle. Ensuite, parce que nous n'avons pas toute l'information sur ce compromis. Ce qui m'amène à revenir brièvement sur le lien entre cause de l'inégalité et des désirabilités de la redistribution. Intuitivement, il faut savoir si le revenu des gens provient du hasard ou de l'existence de relations bien placées, ou au contraire est le fruit d'un effort ou d'un investissement. Dans le premier cas, quand le revenu provient du hasard ou de relations personnelles, le bénéficiaire n'a aucun mérite et la redistribution devrait être totale. Le taux de taxation devrait être 100%. Et ce point de vue est très globalement partagé. Même les républicains américains les plus conservateurs considèrent que du fait de l'absence de responsabilité des personnes dans leurs conditions, la société doit faire preuve de solidarité vis-à-vis des handicapés. Il n'y a pas d'aléa moral, bien sûr. Il est normal, évidemment, de redistribuer. Tout le monde est d'accord là-dessus. Dans le cas où la condition est endogène, là, c'est très différent. Et là, il y a un argument pour garder un taux d'incitation incitatif assez convaincant. Le problème est que nous n'avons qu'une vague idée de ce qui génère la réussite financière. L'effort ou le concours de circonstances. Devant cette pénurie d'informations, il n'est pas étonnant que chacun croie ce qu'il veut croire. À ce sujet, les sociologues et les psychologues ont mis en lumière un phénomène étonnant. Les Américains croient à 29% que les pauvres sont coincés dans une trappe à pauvreté et à 30% que la réussite est due à la chance et non à l'effort et à l'éducation. Donc il y a une très très petite minorité. Et d'ailleurs, si vous allez aux États-Unis et que vous demandez à un pauvre s'il mérite d'être pauvre, très souvent il vous répondra oui, ce qui est tout à fait étonnant. En Europe, les chiffres correspondants sont de 60% et de 54%. De même, 60% des Américains, y compris une fraction élevée des pauvres, comme je le disais, et seulement 26% des Européens répondent affirmativement à la question « Les pauvres sont-ils pauvres ?» parce qu'ils sont paresseux ou manquent de volonté. Des visions du monde complètement antinomiques. Les Américains croient dans un monde juste, « Believes in just world », dans lequel les gens ont ce qu'ils méritent. Que ce soit vrai empiriquement ou non, c'est ce qu'ils croient. Dans un article, Roland Benabou de Princeton et moi-même avons argué que ces croyances, qui évidemment affectent les choix de fiscalité et de protection sociale, logiquement plus progressistes en Europe étant donné la différence des croyances, sont en partie endogènes. Dans un pays à faible protection sociale, il vaut mieux penser que la réussite dépend fortement de l'effort pour se motiver et que seule la détermination pourra assurer un avenir décent à l'individu. Et nous avons examiné les conséquences, les coûts et bénéfices des deux systèmes de croyances. Nous avons dit que les croyances sont endogènes. Une difficulté supplémentaire pour l'économiste a trait à la définition du périmètre dans lequel se juge l'inégalité. Pour comprendre ce problème, il suffit de réfléchir à la libéralisation des échanges, qui a pu accroître certaines formes d'inégalité dans les économies riches, mais en même temps a permis à des populations importantes dans le Sud de sortir de la pauvreté. L'inégalité, est-ce que c'est l'inégalité dans nos pays qui compte le plus ou est-ce que c'est l'inégalité au niveau mondial? On peut aussi penser à nos attitudes vis-à-vis des migrants, même si nos concitoyens ne savent pas toujours que l'immigration présente souvent bien des avantages économiques pour le pays hôte. Il s'agit là d'un jugement éthique pour lequel l'économiste aura une vue personnelle, mais pas de savoir spécifique à apporter. Mais ce jugement éthique conditionne fortement nos politiques de redistribution, ou plus généralement, nos politiques économiques. Les travaux d'Alberto Alesina, de Reza Bakir et de William Easterly aux États-Unis ont montré que la redistribution par la fourniture de biens publics au niveau local est bien plus poussée quand les populations sont homogènes, que ce soit ethniquement ou religieusement. Même si la préférence communautaire, la préférence nationale et les autres formes de préférence pour la redistribution étroitement conçues nous choquent, elles sont un fait auquel il nous faut réfléchir. Enfin, l'inégalité, si elle est d'habitude mesurée sous un angle financier, le revenu ou la richesse, a beaucoup d'autres dimensions que l'argent. L'accès à la santé, le respect, l'intégration dans la société. Particulièrement prégnante, la demande de dignité. Il est de la nature de la très grande majorité des êtres humains de vouloir se sentir utile à la société et non une charge pour elle. Dans leur demande légitime de solidarité de la société envers leurs conditions, les handicapés demandent plus que de l'argent, ils veulent aussi du travail. De même, des questions éthiques se posent dans le choix des politiques redistributives par les institutions du travail, comme pour le choix entre un SMIC plus élevé et un revenu minimal pour les actifs. En augmentant le SMIC au-delà de la plupart des autres pays, la France a fait le choix d'augmenter le revenu des salariés les moins payés par le salaire, plutôt que par l'impôt négatif, entraînant un chômage important chez les travailleurs ayant des qualifications qui les placent autour et en dessous du SMIC. Ces chômeurs perdent non seulement leur capital humain et une partie de leur tissu social, ils perdent aussi un peu de leur dignité. On peut les compenser par l'assurance chômage, mais jamais on pourra les compenser totalement. L'habitude qu'ont certains de nos compatriotes de railler les petits boulots à l'allemande ne semble pas tenir compte de cette dimension. Voici un autre débat sur la moralité et le marché, auquel nous ne pouvons pas échapper avec la numérisation de l'économie, qui va impacter de façon parfois très violente pratiquement tous les métiers et à laquelle, je pense, nous ne sommes absolument pas préparés. Je vais m'arrêter ici. Il y a encore beaucoup d'autres choses à dire sur le sujet, mais je voulais vous remercier pour votre attention.